conservation, le William Robinet, qui est physico-chimiste. Et l'idée, en fait, c'était de se servir des résultats acquis par plusieurs générations de chercheurs sur l'étude du manuscrit du Mont-Saint-Michel, et en particulier sur l'étude faite par Jonathan Alexander dans les années 60-70. Ce chercheur anglo-saxon ayant réussi à classer les manuscrits en différents groupes, je vais revenir tout à l'heure, et il est parvenu à obtenir des chronologies suffisamment resserrées pour qu'on puisse essayer, en étudiant de plus près les matériaux, arriver à comprendre à quelle époque tel matériau était utilisé ou était remplacé par d'autres types de pigments, de colorants, etc. Je vais vous faire une présentation en trois temps. Alors déjà un petit peu au départ, vous remettre dans le contexte. Ensuite, je vais essayer de diffuser la vidéo. Alors effectivement, avec le son qui va être dur à entendre, donc j'espère qu'on arrivera quand même à voir l'équipe du CRC au travail. Et puis ensuite, la dernière partie consistera à présenter les résultats obtenus suite à ces analyses. Et ensuite, nous reprendrons la continuité de cette présentation pour vous montrer concrètement à quoi ressemblent tous les matériaux dont on va parler dans cette présentation. Donc c'est vraiment une coopération qui est très intéressante même pour nous, chercheurs, puisqu'on doit signaler plusieurs types de matériaux qui pourraient faire partie de ceux que l'on n'arrive pas encore à identifier aujourd'hui. Donc il y a vraiment un lien intéressant qui va certainement s'amorcer à la suite de cette journée d'études. Alors, au Moyen-Âge, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, tout le monde la connaît, c'est un centre spirituel, intellectuel et culturel majeur d'Occident. Son scriptorium produit de nombreux manuscrits, notamment durant la période romane, on va dire entre la fin du Xe siècle et jusqu'au début de la période gothique, au début du XIIIe siècle. Et puis, cette activité du centre de va alimenter directement la bibliothèque du monastère qui renferme une grande variété de livres. La plupart de ces livres sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque patrimoniale de la Manche. Si on fait un petit bilan de ce que la bibliothèque patrimoniale conserve, 200 volumes manuscrits datant de la période médiévale, datés entre le 8e et le 15e siècle. Alors, ceux du 8e siècle sont bien sûr des manuscrits qui n'ont pas été produits au Mont-Saint-Michel même, mais en tout cas, à partir de la fin du 10e siècle, ce sont majoritairement des manuscrits confectionnés sur place. Si on regarde les inventaires juste avant la Révolution, en 1790, on sait qu'il restait encore 286 manuscrits au niveau au Mont-Saint-Michel, et on a 90 manuscrits qui ont disparu entre le moment où on a transféré ces livres en 1791 et le moment où on a fait l'inventaire de la bibliothèque municipale de la Manche en 1821. Donc à peu près en 30 ans, il y a 90 manuscrits qui ont disparu, c'est-à-dire à peu près un tiers de la collection médiévale qui était encore conservée au Mont-Saint-Michel jusqu'à la veille de la Révolution. On a aussi aujourd'hui dans cette bibliothèque 1254 livres imprimés. Et en fait, là, c'est encore pire. On s'aperçoit qu'il y a quasiment plus de la moitié des livres imprimés qui ont disparu durant ces 30 mêmes années. Alors, l'intérêt d'avoir. Oui, c'est vrai. J'ai parlé des 200 manuscrits médiévaux conservés à la bibliothèque de la Manche. On en a 25 autres qui sont dispersés un peu à travers le monde. On a à New York, on a à Berlin, à Paris, au Vatican, à Berne, enfin, un petit peu partout. Qui ont quitté l'abbaye, on va dire, entre le 16e et le 19e siècle. L'avantage d'avoir 200 manuscrits du Mont-Saint-Michel conservés à Avranche, c'est de pouvoir les étudier au même endroit, dans un même lieu, et c'est finalement assez peu courant, puisque la plupart des bibliothèques médiévales ont été dispersées lors des guerres de religion, lors de la Révolution française, donc c'est vraiment un contexte très favorable pour l'étude de ces manuscrits. Quand on a décidé de lancer ce projet avec Lauriane, donc en 2018, on a répondu à un appel à projet patrimoine écrit, et on avait trois principales idées en tête. La première, c'était d'arriver à caractériser les matériaux utilisés dans les manuscrits produits au Mont-Saint-Michel, que Jonathan Alexander situe à partir de 980, donc à la fin du premier abbatiat, lorsque les moines bénédictins s'installent au Doubs, c'est en 965-966. Les premières années n'ont pas forcément d'activité de copie livre, et Jonathan Alexander pense que c'est à la fin de l'abbatiat de Ménard, dans les années 980, que les premiers livres sont copiés. Et l'étude s'arrête, proposée de s'arrêter en 1100, puisque la grande période d'activité de production de livres richement enluminée au Mont-Saint-Michel, la première grande période, c'est cette phase qui va de 980 à 1100. Donc l'idée, c'était d'étudier vraiment tous les composants du livre, que ce soit le parchemin, le support, les encres noires utilisées pour la copie du texte et les différentes matières collantes employées, c'est-à-dire des pigments, des matières extraites de minerais, des matières colorantes extraites souvent de végétaux, on va dire de matières organiques en général, et puis aussi des liants qui servent à ce que l'encre et les matières colorantes adhèrent au support, au parchemin, mais qui sont plus difficiles pour nous à percevoir parce que ça peut être des choses qui sont plus ou moins incolores, mais qui peuvent aussi avoir une influence sur les teintes observées dans les manuscrits, notamment les couleurs un peu jaunâtres. On va y revenir un petit peu plus tard. Le deuxième objectif, c'était d'interpréter l'évolution des pratiques des copistes et des enlumineurs du scriptorium tout au long de cette même période, pendant un peu plus d'un siècle. Et puis, à la fin, c'était de constituer une base de données de référence afin de permettre des études comparatives ensuite, arriver à savoir ce qui se passe au Mont-Saint-Michel à une époque et ce qui se passe dans d'autres scriptoria en Normandie et même en dehors de Normandie durant la même époque. Donc c'était un projet avec un objectif de recherche pluridisciplinaire puisqu'on avait besoin d'historiens des textes, d'historiens des bibliothèques, d'historiens de l'art, mais aussi des physico-chimistes. Donc on a essayé de réunir des compétences extrêmement diverses pour avancer plus parce que chacun est spécialisé dans son domaine, mais a finalement peu de connaissances sur les domaines des autres intervenants. C'était une des difficultés du projet. Donc là, je vais essayer de diffuser la vidéo qui va me mettre en immersion avec l'équipe du Centre de recherche sur la conservation. Donc c'est 7 personnes. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des clichés des chercheurs qui sont très masculines. Mais là, en fait, on a une équipe très féminine, puisque ce sont 7 chercheuses qui sont spécialisées chacune sur différents types de matériaux. Par exemple, Marianne, sa spécialité, ce sont les cuirs, les parchemins, les matières faites à partir de peau. On va avoir Anne, qui elle est plus spécialisée sur tout ce qui est analyse de couleurs, mais par rapport à des traitements en imagerie. On a Véronique, qui elle est spécialisée sur tout ce qui est encre, et notamment je vais revenir sur les compositions, mais encre métallogalique, je vais les appeler comme ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce dont il s'agit. Donc je vais sortir du coup pour ne pas dégrader les œuvres. Et donc là, dans la suite du PowerPoint, je vais essayer de vous présenter la démarche qu'on a suivie et les résultats auxquels l'équipe est parvenue, sachant que la masse de données accumulées en 2019 et au début de l'année 2020 pour le village chimique est toujours en cours d'analyse, tellement c'est volumineux. Et Anne est en train de finir d'exploiter tout ça et on espère qu'on aura vraiment les résultats aboutis d'ici le mois de mars prochain. Alors je reviens sur ce que j'avais présenté tout à l'heure, le corpus de manuscrits défini par Jonathan Alexander son livre de référence en 1970. En fait, il a constitué 4 principaux groupes de manuscrits. Un early group qui va des années 1980 à 1920, qui contient une douzaine de manuscrits. Et pour ces manuscrits-là, en fait, on a la chance de connaître les noms de 4 copistes qui sont intervenus. C'est assez rare autour de l'an 1000 d'avoir ce genre d'informations. Donc, c'est aussi une des originalités du scriptorium du Mont-Saint-Michel. Très tôt, les copistes ont commencé à signer leur travail, ce qui n'est pas si courant que ça. Dans son transitional group, en fait, c'est un groupe qu'il a créé de façon un petit peu artificielle, parce qu'il avait d'abord créé son early group, son certain nombre de manuscrits. Il n'entrait pas dans ces groupes-là, il s'est posé différentes questions, et ça l'a amené à créer ce transitional group, qui lui posait quand même certaines difficultés, puisque au niveau des écritures, il retrouvait les mains d'aucun des copistes des autres périodes, et au niveau du décor, on est sur une période qui est un petit peu pauvre, et il pouvait difficilement se baser sur des critères d'enluminure pour dater ses manuscrits, ce qui complexifie quelque peu son travail. Ensuite, il avait fini le middle group, hein, qui s'étend grosso modo de 2035 à 1975, et en fait, c'est le premier apogée artistique du Mont-Saint-Michel, on va venir, avec 17 manuscrits conservés, et on voit bien que pour chaque période, on a des noms de copistes connus, ce qui facilite aussi le travail des chercheurs, parce que quand on a un nom avec une main identifiée, on va naturellement essayer de retrouver cette main dans d'autres manuscrits, alors que quand ce sont des copistes anonymes, le chercheur a moins tendance à faire cette démarche. Donc c'est vraiment un cas, je dirais, d'école pour arriver à dater de façon assez précise les manuscrits produits par période. Au total, on a abouti à 54 manuscrits, mais conservés dans 46 volumes. Parce qu'à l'époque, la congrégation de Saint-Maur a réformé l'abbaye au XVIIe siècle, certains volumes ont été regroupés sous la même reliure, ce qui fait qu'on a un plus grand nombre de manuscrits que de volumes aujourd'hui. Alors, le premier travail de l'équipe, ça a été un travail uniquement visuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé du tout d'outils. Et on s'est fié simplement à nos yeux, à la première impression, et on n'a pas cherché à caractériser finement les couleurs. C'est-à-dire, par exemple, quand on a défini une couleur rouge, ça pouvait être très bien un rouge orangé ou un rouge pastel, jusqu'à un rouge très vif. C'était pas l'objectif, n'était pas rentrer dans les détails, mais vraiment de regrouper par couleur. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que nos 54 manuscrits, alors, comportent tous de l'encre, évidemment, puisque le texte est écrit avec de l'encre, mais il était aussi, enfin, l'ensemble des manuscrits comportait aussi du rouge, principalement pour les titres. Et puis après sont venus tout un tas d'autres couleurs. On s'aperçoit que le vert assez peu présent dans le premier groupe devient de plus en plus fréquent au fur et à mesure du temps, et même est aussi fréquent que le rouge à la fin de la période. On a aussi du bleu qui apparaît ponctuellement sur le premier groupe, puis de façon plus fréquente ensuite. Et le jaune, ça a été notre première surprise, parce que le jaune, aujourd'hui, ne saute pas énormément aux yeux. C'est une des couleurs qui se dégrade le plus. Et c'est aussi une couleur qui est assez pastel, enfin assez claire, et comme elle est souvent associée avec d'autres couleurs, on remarque plus souvent le rouge, le vert ou le bleu à côté que ce jaune qui est quand même assez distinct. Et en faisant cette analyse vraiment poussée, on s'est rendu compte que finalement le jaune, il y en avait beaucoup plus qu'on croyait. On a vu aussi la présence de couleurs violettes, roses, du blanc, du marron, et des couleurs un peu plus inhabituelles comme un vert métallique et de l'or. Donc on s'est posé des questions aussi puisqu'on s'est rendu compte que par exemple, dans notre premier groupe, là où j'ai mis des flèches, on a trois manuscrits qui comportent des couleurs qu'on ne trouve que dans ces manuscrits-là, à cette période-là. Le vert métallique, par exemple, il apparaît que dans deux manuscrits du monde, donc ça nous a un petit peu étonnés. Et puis on avait aussi un autre manuscrit pour lequel il y avait énormément de couleurs par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur les autres manuscrits, ces manuscrits 212. Donc ce premier constat visuel nous a déjà questionné sur pourquoi ces anomalies dans ces groupes, hein, et nous a conduit aussi à approfondir un petit peu l'étude de ces témoins un peu marginaux. Dans le groupe d'après, par exemple, on a deux manuscrits pour lesquels il n'y a que du rouge, mais il n'y a absolument pas d'autres couleurs, et c'est quelque chose aussi un peu inhabituel. Voilà déjà les premiers constats que l'on a vu par l'observation visuelle. Ensuite, on a dressé un bilan par groupe. Et on s'est rendu compte que, par exemple, dans notre early group, on avait très peu d'enluminures en pleine page, un seul en fait. Et comme par hasard, ce manuscrit en pleine page, il nous posait problème puisque c'était un des trois qui comportait des couleurs un peu atypiques. Donc il se démarquait à la fois par la présence de matériaux inhabituels, mais en plus par un style de décor non attendu pour cette période. Par contre, on observe la présence de nombreuses, enfin, une présence fréquente de lettres ornées et de nombreuses initiales de couleurs. Et puis, on constate aussi la présence de beaucoup de rouges et plus rarement et en petite quantité de vert, de bleu, de jaune, de violet et exceptionnellement blanc, de blanc et de vert. Si on passe à la période de transition, un petit peu moins riche au niveau du décor, on a également une enluminure pleine page, mais elle est sur la fin de la période, plutôt autour des années 1040. On a de plus nombreuses lettres ornées et encore de nombreuses initiales de couleurs, avec une palette de couleurs qui s'enrichit un petit peu, enfin c'est pas vraiment enrichi, on trouve un peu plus fréquemment de vert, de bleu et de jaune qu'à la période précédente, et le rouge est toujours très présent. À la bougie artistique de Saint-Michel, on est vraiment sur une période un peu à part. Si on regarde, on a des enluminures en pleine page assez fréquemment sur des ouvrages traitant de patristique. Donc, ce sont les pères de l'Église qui sont représentés, avec des techniques qui sont plus, qui se rapprochent plus des techniques de peinture que de dessin. Là, on est plutôt sur du dessin, alors que là, sur ces enluminures en pleine page, avec les fonds qui sont appliqués, on est plus sur des techniques qui se rapprochent des techniques qu'on trouve sur la peinture murale, par exemple. Et là, on s'aperçoit que les enluminures en pleine page sont plus nombreuses, les lettres ornées sont omniprésentes dans tous les ouvrages, et les initiales de couleurs également. Quant aux couleurs, on va retrouver presque systématiquement les quatre couleurs principales, le rouge, le vert, le bleu et le jaune, mais on va aussi trouver fréquemment du violet, du rose, du blanc, du marron. Donc on a vraiment une palette qui s'est beaucoup enrichie. Enfin, la dernière période, c'est également une période qui est riche au niveau du décor, mais qui, au niveau de la couleur, s'approfondit d'une certaine façon. C'est-à-dire que les artistes ont privilégié l'usage du rouge et du vert, mais non plus, pas uniquement pour mettre des fonds de couleur, ils s'en servent des fois simplement pour tracer, comme ils traceraient à la plume et à l'encre. Par exemple, si je montre ce type de décor, en fait, l'artiste va utiliser une plume et il va faire des traits de couleur rouge et des traits de couleur verte, alors que c'est une technique qu'il n'utilisait pas au période précédente. Il va continuer à faire des fonds de couleur, par exemple ici du vert, ou ici du vert et des lettres de couleur rouge, mais on se rend compte que vraiment ce sont ces quatre couleurs-là qui sont les plus utiles. Alors à partir de cette première période, l'équipe du CRC a visant à privilégier les techniques d'analyse non invasives pour préserver les manuscrits. La première étape, ça va être de revenir sur les manuscrits, mais cette fois avec des techniques en macro et en micro, microscopie avec des microscopes électroniques et des microscopes optiques par exemple. L'équipe va utiliser aussi différents types d'éclairage avec de la lumière naturelle, mais aussi de la lumière UV, de la lumière infrarouge, parce que va être absorbée et réfléchie de manière différente suivant le type de lumière qu'on va utiliser et ça va permettre de caractériser certains matériaux. Donc ça c'est la première étape. En macro, en fait, ça va être des techniques photographiques où on va là aussi utiliser différents types d'éclairage pour faire ressortir les couleurs. Notamment, il y a des couleurs qui réagissent beaucoup par phosphorescence. Donc si on met des ultraviolets dessus, les matières organiques ont tendance à faire de la fluorescence, donc on va en déduire que ça va être plutôt de la matière organique que des pigments. La phase d'après, ce sont les analyses ponctuelles avec les outils qu'on a vus dans le petit film tout à l'heure, donc les méthodes Force XRF et il y a plusieurs façons de l'appeler, mais la technique infrarouge en réflectance, plus pour essayer d'identifier les pigments. Et enfin, l'imagerie chimique, où là on a été obligé d'envoyer uniquement 6 manuscrits beaucoup plus enluminés à Paris pour les étudier avec des appareils spécifiques. Et enfin, quand on n'a pas d'autres solutions, analyse avec des micro-prélèvements. Alors sur le parchemin, ça ne pose pas trop de soucis puisqu'on va facilement étudier le parchemin en faisant des zones, en utilisant des prélèvements là où il n'y a pas de ligne d'écriture et dans les lignes, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Là où ça pose des difficultés, c'est quand on veut commencer à étudier les pigments, les colorants et les liants, puisque là on est obligé d'aller taper dans la matière de couleurs. Et donc l'idée c'était vraiment de prélever là où il y avait des défauts au niveau des décors, notamment les zones de débordement et les zones de débordement. virtuel, donc je ne vais pas forcément mettre en montant puisque l'équipe a présenté déjà ça dans le film. Donc la méthode XRF où on envoie un faisceau laser sur la matière qu'on veut étudier, ce qui nécessite des conditions d'analyse sécurisées, puisqu'il ne faut pas qu'on soit proche de la machine au moment où on utilise. Alors cette technique-là va permettre d'identifier les éléments chimiques élémentaires, donc cuivre, plomb, mercure, et la présence de ces matériaux sur certaines couleurs vont permettre des identifications. Par exemple, si on a du plomb sur une couleur rouge, on va tout de suite penser à du vermillon. Si on a du mercure sur du rouge, on va tout de suite penser à du vermillon, etc., etc. Cette technique-là, à elle seule, des fois, elle ne se suffit pas, donc on va utiliser aussi d'autres techniques comme la technique de réflectance force pour voir les associations moléculaires. Donc là, on va avoir plusieurs éléments chimiques associés entre eux vont avoir tendance à refléter la lumière d'une certaine manière. Et donc, ça va permettre aussi d'identifier certaines matières colorantes. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le XRF permet aussi de savoir qu'il y a du fer dans l'encre et donc d'en déduire qu'on a plutôt une encre ferro-organique. Et dernière technique, travaux de réflectance, c'est un peu la même technique que force, mais là c'est possible dans la zone lumineuse infrarouge, et ça va nous permettre d'identifier différents types de glandes, comme des sucres, des protéines, des lipides, pour savoir si on a plutôt affaire à, par exemple, de l'œuf, de la gomme, etc. Mais il y a aussi certains pigments qui peuvent être identifiés de cette façon. Là, ce sont les deux appareils que possède le centre de recherche sur la conservation à la Cité de la Musique. Donc, ce sont là-bas que les manuscrits ont été analysés pour avoir des cartographies par type d'éléments chimiques. Là, par exemple, pour les micro-prélèvements, on a une zone de débordement ou même des clavoussures, ce qui va permettre d'étudier le vert d'une lettre de couleur. Ici, avec un prélèvement plus entre deux lignes pour le parchemin, donc pour arriver à identifier l'espèce animale, savoir si c'est plutôt la chèvre, une mouton ou d'autres animaux. Enfin, on peut aussi arriver à déterminer certains types de lions par des analyses protéiniques, telles que l'œuf, la gélatine, la caféine. Alors, si on commence par les résultats sur le parchemin, déjà il y a un premier constat physique qui a été observé, c'est-à-dire que l'équipe s'est rendu compte que le veau est systématiquement plus épais que le mouton. Alors, on ne savait pas que c'était du veau ou du mouton au départ, c'est-à-dire qu'on a tout mesuré. Et puis à la fin, quand on a eu nos résultats d'analyse protéinique, on s'est dit « Ah bah tiens, c'est marrant, toutes les tranches qu'on a mesurées pour le veau sont plus épaisses que celles du mouton. » À une exception près, le manuscrit 50 commence par un feuillet en mouton, mais celui-ci est très épais et il comporte une enluminure en pleine page. En fait, on s'est rendu compte que pour le early group, on a uniquement du mouton, sauf pour un manuscrit qui est entièrement en veau. Et c'est pas n'importe quel manuscrit, c'est le manuscrit qui raconte l'apparition de l'archange Saint-Michel sur le mont Gargan en Italie, puis sur le mont Saint-Michel. Et donc c'était un manuscrit extrêmement précieux pour les moines, puisque il rapporte les traditions de la communauté religieuse. Et on va revenir sur ce manuscrit parce qu'il est étonnant à plusieurs niveaux, déjà le fait qu'il est entièrement en veau et que ce soit le plus ancien texte. Ah, le plus ancien témoin du texte pour l'histoire de l'apparition de l'archange de Saint-Michel, c'est quand même assez intéressant à signaler. Ensuite, dans la zone de transition, le transitional group, hein, on n'a toujours que du mouton, mais il y a un seul manuscrit qui comporte des mélanges veau et mouton. Et en fait, on va se rendre compte que c'est un homélière qui contient toutes les homélies dans la communauté en fonction de la liturgie. Et en fait, au départ, tout est en veau, tout est en mouton. Et il y a des cahiers qui ont été rajoutés au cours du XIe siècle, et dans ces ajouts, on a des ajouts de cahiers en veau. On ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est le seul manuscrit qui est a été daté par Alexander de 1015-1040. Alors c'est vrai pour sa partie primitive, mais il a été enrichi tout au long du 11e siècle. Et dans les autres parties, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite. Enfin, pour les middle et late groupes, on s'aperçoit qu'au niveau des enluminures, en fait, les enluminures pleine page en particulier et les grandes lettres ornées, on utilise du faux. Et principalement, enfin, surtout pour le middle group. Alors que le reste du texte est sur du mouton. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant comme découverte. On a vu aussi que. Quelques exceptions, mais je vais pas forcément entendre dessus ici. Résultat sur les encres. Donc, vous avez vu tout à l'heure Véronique qui disait qu'elle était très surprise de trouver que du fer dans ses encres. Effectivement, parce qu'au démarrage du projet, on se disait, mais dans la littérature sur laquelle on s'appuyait, on pensait que les scriptoria monastiques avaient tendance à être des scriptoria artisanaux. Que chaque moine allait faire sa propre encre. Et donc, c'est vrai que dans les manuscrits, on voit des différences de teintes en fonction des différents copistes. Et on se disait, si chaque moine utilise sa propre encre, on va pouvoir identifier les changements de main par les changements d'encre. Et en fait, on a fait chou blanc. C'était la grande surprise. C'est-à-dire qu'il y a des changements de couleur, mais qui ne sont pas dus à des changements de vitriol, de sel, de métallique. Entrant dans la constitution des encres, mais plus par la préparation au moment de l'écriture. Parce qu'en fait, pour faire une encre, on va mélanger de la noix de gale, je pense que Noura va pouvoir vous montrer ça tout à l'heure, avec un sulfate métallique pour créer une réaction chimique afin de créer un précipité noir. Ce précipité noir, on va l'assécher, et puis quand on va vouloir utiliser l'encre, on va le réhumidifier pour écrire. Et en fait, ces différentes phases, vont aboutir à l'obtention d'encre plus ou moins brune, plus ou moins translucide. Et c'est probablement ça qui cause ces changements de couleur sur les manuscrits. Il y a probablement le même copiste s'est certainement arrêté à un moment donné, a remis de l'eau dans son encre, et du coup il obtient une encre qui est un peu moins riche en matière noire. Et du coup ça joue sur ces teintes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu ça, on est sorti de notre corpus pour voir si c'était vraiment spécifique à cette période et au Mont-Saint-Michel. Donc, on a été voir ce qui se passait dans les manuscrits du 8e, on a vu que c'était du sulfate de fer très pur. Même pour des manuscrits produits en Angleterre à partir de Rouen avant d'arriver au Mont, même pour ceux qui venaient de la vallée de la Loire, donc on va dire qu'il y a un savoir-faire dans la production d'encre noire sur une vaste zone. Pour laquelle on utilise du sulfate de fer très pur. Et ça, c'est pas mal. Mais ça, on le voit, alors, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, et au 14e siècle, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va avoir du zinc qui va rentrer dans la composition, du cuivre qui va rentrer dans la composition aussi. Et en fonction des teneurs en zinc et en cuivre, on arrive à voir qu'il se passe quelque chose entre 1320 et 1380, on va avoir un certain type d'encre. Et entre 1380 et le 15e siècle, on va avoir encore un autre type d'encre. Et aujourd'hui, on se pose la question de pourquoi ça. Et il y a plusieurs hypothèses qui sont en cours d'étude. Et parmi les hypothèses, en fait, on se dit que c'est peut-être avec l'arrivée d'un nouveau type de support, le papier, qui aurait conduit à la nécessité d'obtenir une encre moins corrosive. Parce qu'en fait, le parchemin réagit peu à l'oxydation du fer, alors que le papier réagit fortement à ce genre d'oxydation. Du coup, peut-être que l'encre uniquement à base de fer posait plus de problèmes que les encres avec des mélanges à base de fer et de cuivre ou de fer et de zinc. C'est qu'une hypothèse de travail. On est en train d'étudier. Et, je continue pour les couleurs. Hein. Alors, déjà les rouges. Hein. Au Mont-Saint-Michel, on n'a trouvé que deux types de rouges. Du minium, c'est-à-dire de l'oxyde de plomb, qui est fait par des réactions chimiques sur le plomb. Et puis du vermicon, qui est une couleur rouge vive, obtenue à partir d'un minerai, le Sinabre, dont le principal gisement depuis l'Antiquité se situe à Almaden, dans le sud de l'Espagne. Et c'est très intéressant de trouver ce type de pigment à partir des années 1060, parce qu'on ne trouve pas avant 1060. Avant 1060, on ne trouve que du mylum, et donc on a plutôt une couleur rouge-orangé. À partir de 1060, on a plutôt un rouge vif, mais des fois c'est du vermillon pur, des fois c'est une association mylum plus vermillon. On ne sait pas si les moines étaient conscients qu'ils avaient à faire un mélange, et s'ils faisaient eux-mêmes ce mélange, ou s'ils se faisaient avoir, entre guillemets, en achetant un pigment qui avait été coupé avec un autre pigment pour le vendre au même prix, mais alors c'est pas un pigment aussi pur. Dans la littérature, on trouve pas mal d'informations là-dessus qui dit que le cinabre était souvent altéré avec du mylum. Et il y a même des traités d'un peintre italien du XVe siècle qui met en garde l'utilisateur du vermillon en disant qu'il ne faut jamais l'acheter en poudre, mais toujours l'acheter sous forme de minerai, sous forme de cinabre, faire soi-même la poudre, justement pour éviter d'avoir affaire à ça. Ensuite, on a, dans Saint-Michel, on a que du bleu de lapis-lazuli, qui est une pierre semi-précieuse qu'on extrait à cette époque uniquement à un seul endroit, c'est-à-dire en Afghanistan. Donc c'est pareil, c'est pas quelque chose de très local. Et ça, on comprend mieux pourquoi au début de la période, on en a très peu et en petite quantité, et puis que finalement, au fur et à mesure, il va y avoir des circuits commerciaux qui se mettent en place et où ce type de pigment peut plus facilement être obtenu. En fait, le lapis-lazuli, ça va être le bleu le plus répandu à partir à l'époque gothique. En fait, quasiment, on associe souvent le rouge et le bleu, et c'est très souvent du lapis-lazuli. C'est vrai que je n'ai pas parlé des lions, mais je ne vais pas trop le temps pour en discuter après si vous voulez. Sur les verts, alors, il y a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour nous. Le vert, c'est une des couleurs emblématiques des ateliers de Louis Normand, et pourtant, aujourd'hui, malgré les travaux de Claude Coubli dans les années 90, malgré nos travaux à nous aujourd'hui, on n'est pas encore complètement sûr de l'identification de ce verre. On sait que c'est un composé protéinique, donc qui contient des protéines, probablement une matière organique, mélangée avec du cuivre ou un mélange cuivre-zinc. Et on obtient des verres, si vous regardez sur la partie gauche, qui sont assez différents en teinte. Parfois des tons pastels, parfois des tons verts bouteilles, un peu plus solides. On ne sait pas encore exactement ce que c'est. On peut simplement dire que ce n'est pas de la malachite. On peut aussi dire que ce n'est pas du verre de gris, mais on ne sait pas ce que c'est. Et il y a plusieurs pistes qui sont en cours d'étude. Je pense que Nicolas pourra peut-être aussi nous aider pour essayer d'arriver à identifier ce verre très. Enfin, je dis ce verre, je ne vais pas dire ces verres très énigmatiques, parce qu'il y en a probablement plusieurs. Enfin, les jaunes nous ont réservé une bonne surprise parce que jusqu'à présent, on avait très peu d'informations sur cette couleur, probablement parce que justement, il est tellement discret que peu d'études matérielles étaient faites dessus. Si vous regardez les deux duos, on voit des petites paillettes au microscope, et donc ça, c'est typique de leur pigment. Les paillettes, elles ont tendance à se détacher avec le temps. Si bien que leur pigment, qui est du sulfate d'arsenic, c'est une matière très sympathique, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais jusqu'à présent, on n'avait que des matériaux assez sympas à parler. Hormis le lapis-lazuli, qui n'est pas trop dangereux, même pas du tout dangereux, je pense. Par contre, l'oxyde de plomb pour le rouge et le vermillon, qui est du sulfure de mercure, ça fait partie des types de peintures qu'on n'utilise plus aujourd'hui, justement à cause de leur toxicité. Ici, leur pigment, donc le sulfure d'arsenic, c'est pareil. C'est ça, le sulfure d'arsenic. C'est pareil, c'est peu utilisé. Et donc, là, on a étudié les endroits où il y avait ce jaune à paillettes. On a eu des surprises, on faisait des analyses sur le jaune, vous voyez, de l'arsenic. On avait analysé le parchemin au bas de la bâche, on avait aussi l'arsenic. Parce que justement, ces paillettes ont migré et ont contaminé tous les feuillets. Donc, c'est vrai que moi, je recommandais jusqu'à présent à mes lecteurs de mettre des gants ou de se laver les mains. C'est mieux, en fait. Se laver les mains, c'est mieux que les gants. Avant de manipuler les manuscrits, il faut aussi penser à se laver après. ne serait-ce que par la présence de ce genre d'éléments. Et donc l'argument, on va le trouver de 980 à 1045. Il disparaît complètement ensuite pour être remplacé par un jaune organique ou des jaunes organiques qu'on n'a pas encore identifié. D'où l'intérêt d'échanger avec moi à ce sujet-là, puisque on parlait tout à l'heure d'une plante qui pourrait venir, et peut-être de plusieurs. Donc pour nous, ça va être aussi des pistes pour essayer d'identifier ces composants. Alors après, il y a des couleurs qu'on trouve en moins grand nombre. Il y a le blanc qui apparaît soit sous forme de calcite, soit sous forme de blanc de plomb, et dans les deux cas, on va les trouver uniquement dans les manuscrits qui sont postérieurs à 1045. Alors la calcite, on va la trouver dans nos enluminures en pleine page, en mélange avec d'autres couleurs, pour obtenir des fonds plus pastels, pour essayer de casser la couleur vive de certaines couleurs. Le blanc de plomb, il va être utilisé différemment, c'est plus pour faire des relents de couleurs, c'est-à-dire pour essayer de donner du relief, en faisant des tirets, enfin des traits blancs au niveau là, par exemple, si on regarde ici. Voilà, ici, ça c'est du blanc de plomb, il y a une couleur bleue sur le fond et on fait un liseré blanc par-dessus pour donner une impression de relief à cet élément qui paraît tressé en fait. Donc voilà pour les blancs, on va le trouver quasiment qu'à une seule période. On trouve du pourpre. C'est de l'orseil, c'est une sorte de lichen qui va permettre d'obtenir ce genre de couleur pourpre ici là, parce que manuscrit 50 et manuscrit 80. On va voir ce bleu métallique qu'on voit ici à la loupe. Alors, il a un effet, on a l'impression qu'il y a une sorte de poudre qui adhère à une substance verte. Et en fait, on a détecté qu'il y avait des particules venues du cuivre et du zinc. Et donc, on ne trouve que dans deux manuscrits, 50 et 90. On trouve aussi de l'or sous forme de métal. Mais alors, c'est uniquement de la poudre d'or. Il n'y a jamais de feuille d'or. La feuille d'or, ça va être vraiment l'or typique utilisé par les gothiques 13e, 14e, 15e. C'est le 15e siècle. Mais nous, à l'époque romane, on ne trouve que de la poudre d'or. Et de façon quand même assez rare. Il y a 2-3 manuscrits, 211 et 86 notamment, qui en comportent. Pour le brun, on a trouvé de l'hématite, mais on confirme cette information-là dans les autres manuscrits, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs types de brun. On trouve aussi du rose, qui est un colorant organique qui reste aussi à identifier. Alors je passe rapidement à l'image chimique, pour l'image chimique, Anne expliquait qu'on pouvait obtenir des cartographies plutôt que d'avoir des analyses ponctuelles. Et voilà le genre de résultat que ça permet d'obtenir. Là, par exemple, on a une lettre ornée Q qui est constituée de quatre couleurs, les quatre couleurs de base, on va dire le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Et au premier regard, on a l'impression que c'est assez uniforme. Mais en fait, notre analyse chimique va nous révéler qu'il y a deux types de rouge dans cette enluminure. Alors, avec la fluorescence X, on arrive à voir qu'il y a une partie du rouge qui est au mercure et une autre qui est au plomb. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, mercure, on pense tout de suite à vermillon. Plomb, on va penser à aluminium, oxyde de plomb. Et puis, notre technique d'analyse avec la méthode Likert spectrale nous confirme que c'est bien une association de molécules qui est le vermillon et qui est l'aluminium. Pour confirmer qu'on a bien deux couleurs différentes, enfin deux matières différentes pour la même couleur rouge. Et ça, c'est assez inattendu. Et on est à une période particulière où justement ces deux couleurs cohabitent. Un autre exemple avec du vert ici. On a l'impression que le vert utilisé dans les lettres du titre et dans l'enluminure dans la lettre C sont les mêmes. Visuellement, à l'œil, c'est impossible de faire la distinction. Et en fait, quand on fait une analyse avec l'énergie chimique, on s'aperçoit qu'on a à la fois du cuivre et du zinc dans notre texte, alors qu'on a surtout du cuivre dans la partie ici, oxydée un peu. Mais bon, on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux, et donc on s'aperçoit que ce n'est pas la même encre verte qui a été utilisée pour les lettres que pour la lettre en gros. Et donc ça sous-entend que la personne qui a fait le décor n'était probablement pas la même personne qui a fait les rubriques des titres. Souvent les textes sont faits par le copiste lui-même et le décor par l'artiste. Dernier cas très intéressant de l'imagerie chimique, donc le manuscrit 50 qui était jusqu'à ce jour est considéré comme le plus ancien manuscrit produit au Mont-Saint-Michel, entre 1980 et 1000 en gros. En fait, il a deux textes très peu lisibles, dissimulés de part et d'autre des têtes des deux personnages. Alors à gauche, c'est pour identifier l'archange Saint-Michel, son petit Michaelis, ça ne pose pas trop de soucis. À droite, on arrive à lire Jacquinus Monacus, SCI avec une barre pour Sancti, mais malheureusement, le nom du lieu est illisible derrière. Les chercheurs qui se sont penchés sur le problème ont proposé plusieurs identifications, mais toujours en considérant que c'était forcément un moine du Mont-Saint-Michel qui offrait le livre à Saint-Michel. En fait, grâce à la cartographie du fer, on arrive à lire les lettres qui sont après SCI. Si vous voyez bien, malheureusement. Donc là on a SCI bar, là on a L, A, une sorte de. Enfin c'est un V, mais le V c'est majuscule, ça correspond au U. N, O, M, A, R, I. Donc senti l'onomarie. Si on transcrit ça donne ça, j'ai vu Monacus, senti abrégé. L'onomarie, c'est-à-dire j'ai le droit moine de Saint-Lomain de Blois. Saint-Lomain de Blois, c'est une abbaye un peu particulière. En fait, ce sont des moines qui étaient à Corbion, dans le sud de l'Orne, dans la Perche, pas très loin de Chartres, qui ont été contraints, lors des invasions scandinaves du 9e siècle, de se déplacer à plusieurs reprises. Ils ont été pas très loin de la Manche. Ensuite, ils sont partis sur le Mans, où ils ont finalement trouvé refuge à Blois, où les vicomtes de Blois ils ont d'abord accueilli dans la chapelle de leur château, puis leur ont donné une église pour s'installer et fonder leur monastère. Donc ça se passe au Xe siècle. Et donc, il est très probable que le moine Gélois soit un moine de cette abbaye et qu'il ait offert le manuscrit en question au Mont-Saint-Michel. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a une famille de la région de la Loire moyenne qui s'appelle Gélduinide, transmettre le prénom Gélois à cette époque-là, et qui vont devenir vicomtes de Blois au début du Xe siècle. Donc on a probablement un moine apparenté à cette famille, et donc c'est un témoignage vraiment intéressant pour comprendre les liens du Mont-Saint-Michel avec la vallée de la Loire à cette époque. On en connaissait d'autres, on savait qu'il y avait des liens avec Mont-Saint-Julien de Tours, avec Saint-Germain-de-Missy, avec l'abbaye de Fleury, Saint-Denis-sur-Loire. Et donc voilà une abbaye supplémentaire qui vient s'ajouter à notre liste d'établissements étroitement liés au Mont-Saint-Michel et tout de l'Orne. Alors, je vais conclure. En fait, cette analyse permet de corriger quelques datations et quelques attributions proposées par Alexander. Finalement, c'est très peu. On s'aperçoit que son travail fait dans les années 70 avec des moyens quand même très réduits par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Montre qu'il y a simplement 4 manuscrits qui posent un vrai problème. Des manuscrits qui, du coup, vont être rejetés de notre étude en tant que manuscrits produits au Mont-Saint-Michel. Il y en a deux qui appartiennent au Early Book, le manuscrit 50, dont je viens de parler, qui a probablement été produit à. J'ai mis à Saint-Lomain-de-Blois, c'est peut-être un peu risqué de dire ça. Le moine qui l'a offert vient de Saint-Lomain-de-Blois. Il a probablement essayé de trouver des copistes et des artistes sur place. Et s'il n'en avait pas sur place, il a peut-être fait travailler d'autres ateliers voisins. Donc on va dire plutôt d'un atelier de la vallée de la Loire entre 980 et 1000. Et puis le manuscrit 98, il porte un colophon à la fin, c'est-à-dire une pièce de verre dans laquelle les copistes se nomment. Et les copistes nous apprennent que ce sont deux moines du Mont-Saint-Michel qui s'appellent Martin et. Je ne sais plus comment c'est le deuxième. Ils nous disent qu'ils ont été copiés, enfin qu'ils ont trouvé leur modèle d'elle à Saint-Julien, mais ils ne précisent pas quel Saint-Julien, entre 1000 et on sait qu'ils ont travaillé entre 1000 et 1020. Et donc, comme dans ce manuscrit, comme dans le manuscrit 50, on trouve du pourpre fait à partir d'orseille, et surtout un verre métallique qui est assez rare à l'époque, on aurait tendance à déduire que ça pourrait être Saint-Julien de Tours ou Saint-Julien du Mans, et qu'on aurait dans les deux cas des productions plutôt de la vallée de la Loire, ou proche de la vallée de la Loire, qui serait du moins pour le décor. On a deux autres manuscrits qui nous posaient un peu de problème, le manuscrit 129 et le 79, qui avait été mis dans le Transitional Group par Alexander, mais il était un peu embêté avec ces manuscrits, parce qu'il y avait très peu de décors, il y avait des titres en rouge, mais pas d'autres éléments. Les mains ne correspondaient pas à celles de Moine du Mont-Saint-Michel, donc ça posait quand même quelques difficultés. Et surtout, on s'est aperçu qu'ils contiennent du vermillon. Donc le vermillon, nous, au Mont-Saint-Michel, le vermillon, c'est pas avant 1060. Donc ils ne peuvent pas avoir été produits à l'époque du Transitional Group entre 1015 et 1040. Du coup, on a réétudié de près ces deux manuscrits. Il y en a un qui comporte des additions du XIIe siècle qui concernent Saint-Malo. Et donc, notre conclusion va être différente de celle d'Alexander, où on pense que c'est un manuscrit qui a été produit à Saint-Malo, qui a continué à être enrichi tant qu'il est resté à Saint-Malo. Et puis, un jour, il est rentré dans la bibliothèque du Mont. Alors, quand ? Mystère de Mont. 79, on peut en déduire qu'il a probablement été produit après 1060, et vu l'écriture plutôt entre 1060 et 1100, qu'il n'a pas été produit au Mont-Saint-Michel, et aujourd'hui, on ne sait pas d'où il vient. Donc ces manuscrits-là qui nous posaient des difficultés, on est obligé de les écarter. Donc on va garder au final 50 manuscrits réunis dans 42 volumes, le corpus est un petit peu réduit. Reste le cas d'un dernier manuscrit, donc le manuscrit de 211, entièrement nouveau, qui contient les textes fondateurs de l'histoire de Mont-Saint-Michel, et qui s'ouvre par un décor qui a été remanié, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'abord un décor qui avait été fait entièrement au minium, donc au rouge orangé, et qu'à une certaine époque, on a rajouté par-dessus de l'or, du lapis d'Azuli et du blanc-plomb. Or, l'usage de l'or, du lapis d'Azuli et du blanc-plomb associés tous les trois ensemble correspond à la période de notre middle group, des années 1050-1080. Donc ce manuscrit-là, en fait, il va être intéressant à est étudié dans deux contextes, son contexte de création d'origine à l'époque du Grand Groupe, autour de l'Empire, puis à l'époque où il a été remanié, à l'époque du Middle Group. Au niveau de l'évolution des couleurs, on a quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait tout à l'heure, au départ. Le fait d'écarter le manuscrit 50 et 98 et de remettre le manuscrit 211 avec deux phases de production fait qu'on écarte certaines couleurs qu'on avait vues dans ce groupe au départ, notamment le vert métallique n'apparaît plus, le marron n'apparaît plus, le blanc n'apparaît plus. Et du coup, il ne nous reste plus que du rouge, mais pas n'importe quel rouge, un rouge orangé d'huile. Le bleu de la ville d'Azuli va apparaître rarement dans quelques enluminures, de même que le vert et le jaune, et le jaune est à ce moment-là uniquement de leur pigment. Au transitionnel, on va trouver exactement les mêmes matériaux, simplement la quantité de couleurs jaune, verte et bleue augmente, et sur la fin de la période va commencer à apparaître aussi du rose dans un des manuscrits. Ensuite, pour le middle group, qui est la période, l'apogée artistique, là on a vraiment une palette de couleurs extrêmement riche, et on voit surtout que le minium va commencer à cohabiter avec le vermillon. Mais dans les deux cas, le vermillon va être dans ce cas-là mélangé avec du minium, c'est un mélange minium-vermillon. On va avoir aussi l'or qui est utilisé et surtout le blanc plomb dans les couleurs, ainsi que la calcite dans le milieu de pleine page. Enfin, dans la dernière période, on n'a plus du tout de milium, à une exception près. Il y a un manuscrit qui comporte du milium, mais c'est parce que l'artiste voulait obtenir cette couleur orange. Mais sinon, on trouve plus que du vermillon, soit pur, soit sous forme de mélange. Donc deux types de rouge. Le vert va être omniprésent associé au rouge. On apparaît quasiment plus son autre. On va avoir un petit peu moins fréquemment l'usage du bleu et du jaune, mais on en trouve encore en grande quantité. Et surtout, les autres couleurs, vous voyez, un peu le violet, le rose, le blanc et l'or, vont être utilisés encore ponctuellement, mais beaucoup moins fréquemment. Alors, si je reviens sur le parchemin, pour vous donner un exemple de ce qu'on trouve sur le Middle Group, par exemple, j'ai représenté. Le premier cahier du manuscrit, c'est souvent en début d'œuvre, on va avoir ça. On va avoir un cahier, c'est souvent des quaternions, donc quatre bifeuillets. Et puis, alors, sur notre premier bifeuillet ici, on a des pages blanches. Donc, ici, page blanche, ici, du texte, et c'est sur du vous. C'est sur du vous. Par contre, ici, on va avoir une complète page au recto, et au verso, on va avoir une lettre de couleur, celle-ci, avec un titre aussi. Et donc, ça, c'est la partie qui est la plus décorée du manuscrit. Elle a été faite sur du vous. Et comme on a utilisé un bifeuillet, son pendant à la fin du cahier qui contient pourtant que du texte est aussi uniquement, est aussi sur du vous. Et le reste du cahier, c'est que du texte, ça comprendra, et là c'est du mouton. Et si on prend les autres cahiers qui suivent, on ne trouve que du mouton. Donc il y a vraiment un choix délibéré des artistes de travailler sur du vous plutôt que sur du mouton tout au long de cette période. Si on essaye de résumer tout ce que j'ai essayé de vous dire sur une frise chronologique, on arrive à voir émerger quelques évolutions pratiques. Déjà, on s'aperçoit que toute cette richesse au niveau du décor coïncide à peu près exactement avec l'apparition de l'influence du style anglais, du style de Winchester, qui est introduit au bout et qui est un style qui va vraiment influencer les artistes montants. Donc, peut-être que la connaissance d'un nouveau style de décor va être aussi accompagnée par la présence d'une palette de couleurs plus riche mise à la disposition des artistes. Donc ça, c'est une première hypothèse. En tout cas, ça correspond exactement à l'apogée artistique du sculptorial. Et donc, on va observer plusieurs ruptures. Donc, par exemple, là, l'orpiment, c'est tout au début de notre période d'apogée que l'orpiment va disparaître et être remplacé par le composé organique qui vraiment se substitue à l'orpiment. Pour le minium, on va l'avoir sur toute la période, mais par contre, la rupture, elle n'est pas au début de la période, c'est vraiment autour de 1060 où le minium va disparaître en usage seul, mais par contre, va être soit associé à du vermillon, ou soit on va utiliser le vermillon seul. Et donc là, on a un rouge vraiment beaucoup plus vif, qui se conserve mieux aussi, puisqu'il est moins sensible à l'oxydation. Sur le minium, on va avoir des effets de noircissement qu'on observe assez fréquemment. Alors que sur le vermillon, ou même sur le mélange minium-vermillon, ces effets de noircissement sont beaucoup moins présents. Donc c'est probable que les artistes préféraient travailler avec cette couleur plus vive, qui est plus noble et qui se dégradait moins dans le temps. Donc c'est probablement la qualité du matériau qui explique cette rupture. Ce n'est pas une question de coût, puisque le vermillon devait être beaucoup plus cher à obtenir que du minium. Donc là, pour l'association, pour le parchemin, on avait, comme je disais tout à l'heure, quasiment que du mouton, à de rares exceptions, sur le bas de veau. Ici, on a systématiquement le veau dans les enluminures au début du manuscrit, et le reste du manuscrit en mouton. Par contre, à la fin de l'apogée, on va retrouver les mêmes pratiques que cette période-là, c'est-à-dire qu'on privilégie de nouveau le mouton. On a quasiment plus d'enluminures dans la même page, et les grandes lettres ornées sont quand même faites sur du mouton et non pas sur du veau, contrairement à la période précédente. Et pour le faire, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque on a vu que c'était tout au long de la période le même type de mélange, une encre ferro-galique utilisant un fer très pur. On trouve parfois des traces de manganèse, et c'est vraiment une très petite quantité. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je rappelle simplement les deux organismes financeurs, ministère de la Culture, Service du Livre et de la Lecture, et notamment ces appels à projets patrimoine prix. On a aussi bénéficié de l'aide de la Fondation des sciences du patrimoine, avec laquelle le Centre de recherche sur la conservation travaille fréquemment pour justement réaliser des missions hors des laboratoires. Donc, ils sont prêtés du matériel, ils obtiennent des financements pour déplacer, etc., tout ce qu'ils ont besoin sur place. Et puis, bon, il y a des noms, tous les collègues, c'est vraiment des connaissances interdisciplinaires. Par exemple, là, on a une spécialiste d'histoire de l'art. Là, on a l'équipe qui travaille sur la bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel. Ici, on a des personnes de la Cité de la Musique qui nous ont aidés pour les analyses en images et chimiques. Claude Coupry, qui a travaillé sur les manuscrits fréquents dans les années 90, mais uniquement sur les matières colorantes avec la technique Raman, donc c'est-à-dire micro-prélèvement puis analyse des éléments. Et c'est vraiment elle qui est à l'origine de ce type de recherche qui nous a donné envie de faire cette étude sur les abeilles du Mont-Saint-Michel. Tout en plus, il y a un lien très fort entre les abeilles de Fécamp et du Mont-Saint-Michel au XIe siècle. Donc on voulait vraiment arriver à voir ce qui se passait dans les deux établissements. Donc j'insiste pas forcément sur autre chose. Et du coup, je finis par un peu plus. Parce qu'en fait, avec l'équipe de chercheurs, on avait fait une journée d'études en 2017 sur la bibliothèque et les archives de l'abbaye de la Trinité de Fécamp, où était invité justement le groupe et où nous l'avons rencontré, et où elle nous a mis en relation avec cette équipe du CRC pour lancer ce projet. Et en fait, les communications qui ont été faites lors de ces journées d'études ont été réunies dans un ouvrage en deux volumes, dont le premier volume va sortir très prochainement. Donc, j'ai apporté des bons de commun pour les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà donc pour la présentation. Et maintenant, je vais vous inviter à vous diriger vers l'atelier de Nora qui va nous présenter vraiment concrètement, parce que là, ça reste très théorique ce que vous avez présenté. Nora va pouvoir nous montrer vraiment à quoi ressemble chacun des matériaux qui ont été abordés lors de la présentation.
Froment,
Fouron, on l'a dans plusieurs manuscrits. Il collabore avec un artiste pour manuscrit 72, et il collabore avec un autre artiste pour manuscrit, je crois que c'est 148, je vais peut-être dire une bêtise. Je ne me rappelle plus la côte exacte. Mais en tout cas, donc là, on arrive à voir que ce n'est pas la même main qui fait le décor. Par contre, dans leur groupe, là, on est sur une période qui est un peu moins, comment dire, au niveau artistique, il y a quelques manuscrits qui sont très pointus au niveau du décor, mais par contre, la plupart sont assez simples. Et on s'aperçoit que certains manuscrits sont probablement décorés par le copiste, parce qu'on retrouve un peu le même type de décor dans plusieurs manuscrits. Soit ils collaborent avec eux-mêmes, mais sincèrement, je ne pense pas dans ce cas-là, parce qu'on a quand même quelque chose d'assez sobre et assez simple à faire, contrairement au middle book, où là, vraiment, il faut avoir la maîtrise des lions pour arriver à... Oui, c'est vrai, j'ai très peu parlé des lions, mais on s'est rendu compte, par exemple, que la plupart des lions qu'on avait, c'était plutôt de l'œuf, notamment sur les couleurs rouges, jaune et bleu, alors que sur le vert, on n'a jamais d'œuf. Et quand on... Il y a des zones où on s'aperçoit qu'on a une couleur qui déborde sur l'autre, et du coup, on a probablement le plus bas qui est venu sur le vert. En fait, le vert, il a tourné au marron, dans ce cas-là. Donc, il y a eu une réaction. Donc, ça veut dire que chaque couleur a presque son client associé. Et donc, pour revenir à ça, je pense que l'enlumineur, il a des connaissances particulières que je pense que le copiste n'a pas forcément, en tout cas à la période du middle group. Ça, je pense que c'est moins vrai sur le early group, le transitional group. Le late group est un peu plus compliqué à identifier, enfin, à savoir ce qui se passe réellement, parce qu'on a des artistes qui travaillent dans le late group, qui travaillaient déjà dans le middle group, et ils n'utilisent plus du tout les mêmes couleurs. On n'a pas complètement l'explication. Est-ce que c'est une volonté de se réduire à certains types de matériaux à cette époque-là? Est-ce que c'est le style qui a changé entre les deux? Et c'est vrai qu'on peut parler de style montois dans le late group, parce qu'ils associent cette couleur verte et cette couleur rouge à la fois dans les titres et dans les décors de façon systématique. On le voit dans d'autres ateliers normaux, mais pas à ce point-là. Donc est-ce que c'est une volonté d'atelier? Est-ce qu'il y a un chef d'atelier qui impose qu'on utilise plus ces couleurs? Est-ce que c'est un problème d'approvisionnement à cette période-là? Je ne pense pas quand même, parce que le bleu, on va le trouver quand même, c'est toujours le bleu d'atelier. Donc on a quelques réponses, mais on n'a pas... C'est quand même difficile de savoir. C'est vrai que quand le copiste va signer son travail, il va juste dire, voilà, j'ai fini ce travail, c'était très pénible, j'aimerais qu'on prie pour moi pour que je tienne le salut, etc. C'est ce genre de choses qu'on va trouver. Il ne va pas nous dire, voilà, bah, j'ai travaillé du mois de mars au mois d'octobre, je collaborais avec telle autre personne. Enfin, c'est vraiment... on n'a pas d'informations vraiment sur l'activité de l'atelier. C'est plus une pensée à la fois pour le travail qui est considéré comme pénible, puisque le travail debout, on commence à plus à trois doigts, et je pense que ça va être une vraie torture, surtout à certaines périodes de l'année, ça va être quand même bien compliqué. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques copistes qui se plaignent de ça, et qui en échange réclament qu'on prie pour eux et saluent leur âme. En fait, je pense qu'ils ont l'impression qu'en faisant ce travail utile pour la communauté, c'est aussi un moyen de pouvoir compenser une partie de leur faute et du coup pouvoir plus facilement obtenir le salut. Mais on n'a pas beaucoup d'autres informations. Merci.
Mon réflexe historiquement, c'est-à-dire au 8e siècle, les Vikings sont encore des Normands, et donc on a des manuscrits dans ce Michel. On a par exemple à l'Angélique les manuscrits qui se sauvent pour aller à Tours et au Bourgogne parce que face aux invasions. Comment ça se passe historiquement? Après qu'ils se soient fixés après le traité fixant les Normands en Normandie, comment ça se passe?
Alors, malheureusement, on a peu d'informations sur tout ce qui se passe au Mont-Saint-Michel, de vraiment certains, avant que les moines bénédictins viennent récupérer l'établissement en 1965-1966. Tout ce qui est allemand, on a quelques bribes, ça et là, mais par exemple, on sait qu'il y a un moine qui vient, qui fait un pèlerinage et qui passe par le Mont-Saint-Michel en 870. Donc ça veut dire qu'il y avait encore une communauté de religieux au Mont à cette époque-là, donc on est quand même en pleine période d'invasion scandinave. Après, la Bretagne est particulièrement frappée, et la Manche aussi, dans les années 980-990, jusqu'aux années 920, et là, on n'a quasiment aucune source, on ne sait pas ce qui se passe au Mont-Saint-Michel. On ne sait pas s'il y avait une bibliothèque riche à cette époque-là. C'est des chanoines à l'époque qui sont plutôt à desservir un lieu de culte, mais on n'est pas encore sûr qu'il y ait une grosse communauté avec une bibliothèque. Et on n'a aucun témoignage qui permette de l'affirmer que c'était le cas. Et comme pour la plupart des établissements monastiques normands qui ont été frappés par les Vikings à cette époque, on a quasiment beaucoup de manuscrits datant de cette époque concernés. Donc soit ça a brûlé, soit ça a été transporté ailleurs et c'est jamais revenu. Du coup, c'est vrai que nos premiers manuscrits du Mont-Saint-Michel, alors les plus anciens, je parle des manuscrits du 8e siècle, en fait, c'est un manuscrit qui a été copié à Canterbury. C'est un fragment de l'évangéliaire qui a été renvoyé au 12e siècle. Les moines, en fait, il est écrit en lettres capitales. Je pense que c'est plus l'écriture qu'ils utilisent à l'époque romane. Du coup, ils l'ont renvoyé pour faire autre chose au XIIe siècle, et on a retrouvé ces fragments dans les feuilles de garde, en fait, des parchemins, enfin des manuscrits. Hein. Du coup, ces quelques feuillets sont miraculeusement parvenus jusqu'à nous, mais en tout cas, ce n'était clairement pas une production du Mont-Saint-Michel. Et on n'a aucun manuscrit antérieur aux années 980 qui. Pour lesquels on est sûr qu'il provient du monde. Et finalement, le scriptorium se remet en activité quand les moines bénédictins s'installent. Et visiblement pas aussitôt, puisqu'ils s'installent en 965-966. Et finalement, c'est à partir des années 990 qu'on va avoir les premiers témoignages de copistes qui travaillent en nous, avec notamment Hervarius. Il a signé son travail dans un des manuscrits aujourd'hui conservés à Leyde, aux Pays-Bas. Et grâce à ça, en fait, on a pu, enfin c'est François Avril et Jonathan Alexander qui ont fait ce travail-là dans les années 1960. Ils ont réussi à trouver sa main dans plein de manuscrits de la Manche, mais aussi dans des manuscrits conservés aujourd'hui à l'ENF. Et donc, on sait qu'ils copiaient des manuscrits très très variés. Ça pouvait aller des Moralia in Job de Grégoire le Grand, en passant par des auteurs classiques latins tels que Perse Juvénal, les satires de Perse Juvénal. Donc ça prouve qu'il y avait quand même, dès le départ, le besoin de manuscrits très variés et donc la présence d'écoles pour enseigner. Perse et Julien, ils étaient utilisés pour enseigner le latin. Donc on arrive quand même à savoir un petit peu ce qui se passe, mais comme on n'a pas d'inventaire médiéval, on ne sait pas combien il y avait de manuscrits au bout au 11e siècle. Et on raisonne sur ce qui nous reste finalement. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Non, mais c'était pour
me situer. Me
situer, oui. Et je suppose qu'avec Guillaume la Conquérante en 66, on a eu une influence.
Alors, il y a des influences, mais en fait, l'influence du Cécile Winchester arrive avant même que Guillaume fasse la conquête de l'Angleterre. Il y avait déjà des sacramentaires et des livres liturgiques anglo-saxons présents en Normandie dès les années 1020-1030. Et en fait, c'est ces manuscrits-là qui ont commencé à influencer les artistes, pardon, dans les années, on va dire, 1035-1040. Et c'est avant la conquête de Guillaume qu'il y a déjà une influence dans ce sens-là. Et la conquête de Guillaume, elle va plutôt avoir une influence dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils avaient très peu d'ouvrages des pères de l'Église en Angleterre à cette époque. Et d'ailleurs, ils enluminaient que les livres liturgiques en Angleterre. Alors, en Normandie, on va commencer à enluminer aussi les œuvres. Et ces œuvres-là vont servir de modèle et être envoyées de l'autre côté de la Manche. Mais effectivement, les liens transmanches au XIe siècle sont importants et ça va perdurer dans les années qui suivent, le XIIe, peut-être même début du XIIIe siècle.